Les paradoxes des parents d'élèves.
Être et savoir. Louise Touret.
Quelle place pour les parents à l'école? Si nous posons la question aujourd'hui, c'est parce que les élections de parents d'élèves se tiennent les 11 et 12 octobre, soit vendredi et samedi prochain, dans toutes les écoles, collèges et lycées de France. Alors, ces parents trop ou pas assez proches de l'école? Emmerdeurs, consommateurs d'éducation ou négligents, oui, les parents n'ont pas forcément bonne réputation. Alors à quoi pourrait ressembler ce mystérieux parent qui serait à la fois un bon parent d'élève pour les enseignants, pour les autres parents et même pour ses propres enfants? C'est difficile à dire, mais ils sont importants, essentiels, ces parents, si on se réfère en tout cas au texte officiel. Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Leur rôle est important et on donne même des conseils sur le site de l'Éducation nationale. Je vous en livre un, il est adressé à tous les parents. La réussite de la scolarité de votre enfant est liée au dialogue qui s'établira entre les personnels de l'école ou de l'établissement scolaire du second degré et vous-même et de votre implication dans l'accompagnement de sa scolarité. Une phrase qui résonne étrangement alors que tant de parents sont invisibles à l'école. C'est ce qu'explique le sociologue Pierre Perrier qui a enquêté sur le sujet, enquêté auprès de parents mais aussi d'enseignants. Enfin, s'il en va de la réussite des enfants, il s'agit aussi de penser notre relation à une institution à laquelle nous pouvons participer. S'agit-il d'être simplement présent ou d'avoir un vrai rôle à l'école et d'assurer ainsi une forme de démocratie vivante et locale? D'ailleurs, qu'apprend-on en étant parent d'élève? En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert avec le journaliste et écrivain Piotr Smolar. Une enfance à la fois française et polonaise et une éducation marquée par la lutte contre le communisme. Une enfance très politique. Et je salue les invités de cette émission. Pierre Perrier, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'être en duplex avec nous depuis Rennes. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2, membre du Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Et vous venez de publier « Les parents invisibles, l'école face à la précarité familiale ». Et c'est aux presses universitaires de France. Avec vous, des parents. Jeanne Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parent d'élèves, vous êtes facilitatrice, fondatrice de l'agence CATSI. Alors, on va expliquer ce que vous faites à l'école, mais qu'est-ce que c'est facilitatrice comme métier?
Alors, en tant que facilitatrice, j'interviens dans les entreprises et les collectivités principalement pour mettre en place des conditions pour qu'un groupe de personnes atteigne son objectif. Donc, c'est les aider à avoir des idées, à résoudre des problèmes et tout ce qui fait qu'on se retrouve ensemble pour avancer dans une collectivité.
Et donc ça, on peut le faire à l'école en tant que parent?
On peut le faire en tant que parent bénévole, tout à fait.
Bénévole, oui, c'est bien de le préciser. Hein. L'école de vos enfants ne vous emploie pas pour ça. Avec nous également, Sylvaine Bérel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collectif Apprendre Ensemble, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Oui. Vous êtes membre d'une des deux grandes confédérations de parents, c'est la FCPE, il y a aussi la PEP, mais ce n'est pas au nom de la FCPE que vous vous exprimez aujourd'hui, sinon on aurait invité aussi la PEP, mais voilà, c'est pas une interview de campagne électorale. Avec nous également, mais au téléphone, Fatiha Ait Allah, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du collectif Les Mères du Petit Bar, et c'est à Montpellier. Vous en êtes même une des cofondatrices. Ce sera aussi intéressant de vous entendre sur ces parents plus ou moins visibles hein, dont on va parler aujourd'hui. Alors on aura aussi dans cette émission, nous avons aussi invité Édouard Geffray. Il a eu un petit problème d'emploi du temps. Édouard Geffray, il tient un rôle important au ministère de l'Éducation. C'est le numéro 2, c'est le directeur général de l'enseignement scolaire, la DGESCO. Alors, on va lui parler des parents d'élèves, mais nous devions vraiment commencer par revenir sur le suicide de Christine Renon. On en a parlé la semaine dernière. La directrice, vous le savez, s'est donné la mort dans son école. Son geste a bouleversé des parents et bien sûr des enseignants et des directeurs et directrices d'école. Certains étaient en grève jeudi. Ils sont inquiets de l'évolution du métier, cette évolution précisément dénoncée par Christine Renon qui évoquait dans la lettre qu'elle a laissé des tâches administratives qui prennent 200% du temps. J'ai demandé à Édouard Geffray si ce sujet était au programme de la réflexion lancée par le ministère de l'Éducation.
Alors, la première chose, c'est que la douleur, elle est partagée, évidemment, bien au-delà des enseignants, par toute la communauté éducative, et notamment par toute l'administration du ministère qui vit ça, comme le reste des personnels, avec énormément d'émotions, une fois encore, de douleur. Donc voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est que le ministre a annoncé hier, comme vous le savez, qu'il y aurait des travaux. Il y a des travaux qui ont déjà été entamés, mais qui vont évidemment non seulement se poursuivre, mais prendre une ampleur renouvelée à la demande du ministre. Et dans les chantiers, il y a bien un chantier sur cette dimension entre guillemets administrative des tâches et sur tout ce qu'on pourra faire pour, j'allais dire, réduire cette pesanteur administrative sera fait au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
On a aussi beaucoup parlé du côté des enseignants, et c'est dit dans la lettre, d'un manque de communication, d'une certaine froideur de l'administration. En fait, va-t-il en être question dans ces discussions et aussi dans les formations qu'on pourrait prodiguer à ceux qui gèrent le personnel de l'éducation nationale? On dit qu'il y a un manque de formation RH, ressources humaines, hein, dans les rectorats et au ministère.
Alors là vous touchez du doigt un chantier qui a été lancé il y a 2 ans et qui se généralise à toutes les académies depuis le 1er septembre, qu'on appelle la gestion RH de proximité. L'idée, c'est que depuis cette rentrée, et de plus en plus en termes de densité territoriale, tous les personnels auront en proximité, c'est-à-dire à terme à 20 minutes de leur lieu d'exercice maximum en voiture, en transport en commun, un interlocuteur RH avec qui ils pourront parler de leur situation, de leurs envies d'évolution professionnelle, de leurs difficultés, de leurs éventuels besoins en termes de formation, en termes managériaux, pour ceux d'entre eux qui sont appelés à animer des communautés éducatives. Et donc c'est en train de se déployer. On l'a expérimenté d'ailleurs dans 15 académies. Ça a très bien marché. Ça correspond à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas laisser nos collègues tout seuls en termes RH. Et donc c'est pour ça qu'on passe à l'échelle depuis le 1er septembre.
Est-ce qu'on peut imaginer remettre des secrétaires? Ça paraît un détail, mais c'est important. Ça s'est aussi un peu arrêté avec des emplois aidés dans certaines écoles. Plus de secrétaires, plus de personnel aussi pour aider les directeurs et directrices d'école dans leurs tâches quotidiennes.
Alors quand on disait tout à l'heure, traiter la dimension administrative du problème, il y a deux choses, c'est comment simplifier la vie, ne pas envoyer X circulaires, etc., etc. Et puis en face, il y a comment se donner les moyens finalement de traiter malgré tout ce qui restera toujours une partie administrative dans la vie normale des écoles, les inscriptions, etc., etc. Tout sera sur la table. Voilà, très clairement. À ce stade, je ne suis pas en mesure évidemment de vous en dire plus, mais tout sera sur la table dans les discussions qu'on va ouvrir dans les prochaines semaines.
Et donc, les parents d'élèves, parce que vendredi, ce sont les élections des parents d'élèves. C'est important, les parents d'élèves pour l'école. Pourquoi, d'ailleurs? Dites-le nous au nom du ministère de l'Éducation nationale.
Pourquoi? Tout simplement parce que au cœur de l'éducation nationale, vous avez l'enfant, et que l'éducation de l'enfant ne s'arrête pas aux portes de la famille ou ne s'arrête pas aux portes de l'école. C'est ce qu'on appelle parfois la coéducation. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur laquelle et la famille et l'école, jouent dans l'éducation de l'enfant. Et donc les parents d'élèves sont à ce titre, complètement partenaires de ce processus. Ils font partie, de l'écosystème scolaire. Et donc évidemment, ils ont un rôle absolument essentiel.
On va en parler dans cette émission. Comment les impliquer davantage? Parce que ça reste une question, un problème soulevé par Pierre Perrier, par exemple, qui a écrit un ouvrage sur cette question. Quelles sont vos préconisations, Édouard Geffray, sur ce point?
Alors, vous avez plusieurs dimensions. Une première dimension qui est, si je puis dire, la vie de l'école ou de l'établissement. Aujourd'hui, les parents d'élèves élus, ils font partie des conseils d'école, des conseils d'administration, ils participent aux conseils de classe, on a tous vécu en tant qu'élève ou en tant que parent. Donc, il y a cette dimension, un peu institutionnelle, mais importante, parce que c'est la vie quotidienne de l'école
qui se travaille. Plus de parents.
Ouais, mais ce point-là est important. Après ça, comment est-ce qu'on fait plus? Il faut, penser un certain nombre de pans de l'éducation en lien avec eux. Et puis, tout simplement, penser le service public par rapport à leurs besoins. Si je vous parle d'autres sujets, quand on parle éducation à l'alimentation, par exemple, on sait que cette année, il y a 200 000 enfants qui ont bénéficié de petit déjeuner. Dans beaucoup d'académies, dans beaucoup d'établissements, on le fait avec les parents. C'est-à-dire que c'est un temps où on partage quelque chose autour de l'alimentation de l'enfant, parce que derrière, on construit sa journée, on construit son rapport à l'alimentation, et donc son développement et son bien-être.
Bon, sur le handicap, il y a aussi la lourde question des AVS. On en reparlera, les accompagnants, c'est très important et ça reste un dossier. Le ministre Édouard Geffray a parlé des mères voilées en sortie scolaire. On pourrait revenir sur ces propos hein, qui ont été largement débattus. Ces mères voilées dont le Conseil constitutionnel a dit qu'elles pouvaient venir, le ministre semble plus circonspect. Mais en tant que participante de la vie de l'école, en tant que parent d'élèves, que dit l'institution, ces mères qui peuvent être déléguées, qui peuvent être élues est-ce qu'elles sont les bienvenues aussi selon le ministère? Est-ce que vous êtes prêt à vous exprimer sur cette question?
Alors d'abord, en tant que fonctionnaire, il y a toute une dimension, j'allais dire, du débat, par définition, sur laquelle je n'ai pas à me prononcer. Ensuite, ce qui est certain, c'est que l'école, par définition, accueille tous les parents. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été dit. Et donc, il n'y a pas de... Sur cette pleine intégration de tous les parents autour du bien-être et de la construction de leur enfant, il n'y a pas de débat.
Tous les parents sont les bienvenus à l'école. Cette question ne soulèverait pas de débat pour Édouard Geffray. Alors, il n'a pas pu rester. Mais tout de même, des questions, il y en a plein qui sont soulevées dans votre ouvrage, Pierre Perrier. Des parents invisibles, des parents qui n'arrivent pas à arriver jusqu'à l'école. Une école qui n'arrive pas à comprendre de son côté pourquoi ses parents ne sont pas disponibles. C'est ça le grand malentendu?
Oui, une façon de rendre compte de la difficulté de construire du lien entre certaines catégories de parents et l'école. C'est-à-dire, effectivement, il y a des préjugés de part et d'autre, mais si les intentions de l'institution sont bien affirmées, votre interlocuteur vient de le rappeler, dans les faits, on ne peut pas dire qu'on constate la présence ni la reconnaissance de tous les parents. Donc, il y a un enjeu à réfléchir sur la manière de faire avec la diversité des familles aujourd'hui et éviter ces effets d'invisibilité qui concernent des fractions non négligeables de certains parents, notamment dans certains quartiers.
Qu'est-ce qui manque à la réflexion du ministère, des rectorats, des chefs d'établissement, Pierre Perrier?
Bien, je pense que, et c'est une contribution de l'ouvrage, une lecture possible de l'ouvrage, notamment dans ses conclusions, c'est la capacité de l'institution à s'interroger sur elle-même, sur sa position, sur l'asymétrie du rapport qu'elle induit avec les parents, une forme d'ethnocentrisme institutionnel, c'est-à-dire de regarder les choses uniquement sous son prisme et de laisser une voie étroite, on pourrait dire, pour construire cette relation avec les familles. Dans le quartier où j'ai enquêté sur plus de 2 années, on comprend dans la logique des parents, hein, le point de vue des parents confrontés à l'école, qu'il y a un malentendu, comme vous dites, mais il y a aussi vraiment des enjeux de reconnaissance mutuelle, de réciprocité dans l'action et demander aux parents de s'impliquer dans l'école, c'est déjà une façon pour moi de mal poser le problème, puisque ce n'est pas reconnaître que les parents en réalité s'impliquent déjà. Mais quelles sont les formes d'implication de ces parents? Quel est le sens de leur investissement dans la scolarité de leur enfant, de leur reconnaissance à l'école? Je crois que c'est ça qui manque à l'institution, c'est ce dévoilement de l'expérience au quotidien et de l'implication au quotidien des parents que j'ai appelés invisibles et qui sont pour une grande part aussi des parents du coup inaudible, puisqu'il faut être présent pour être entendu.
On va revenir sur tout ce qui est de l'ordre de l'implicite, hein, dans la demande qu'on fait aux parents d'être présents. Cette demande, elle est réitérée dans bien des occasions, et moi j'en ai retenu une. C'est un discours d'Emmanuel Macron, c'était en mai 2018. Ce discours portait sur les banlieues, et il a parlé des mères, enfin, des mamans.
Quand j'étais en campagne présidentielle, celles qui m'ont appris, les choses qui m'ont inspiré sur beaucoup de nos politiques, ce sont les associations de mamans dans certains quartiers. À Montpellier, à la Paillade des Petits Bars, je n'oublierai jamais cette association de mamans d'élèves qui m'a expliqué pourquoi c'était une formidable erreur d'avoir fermé les classes bilingues, parce que quand il y en avait dans leur quartier, c'est sa formule, les petits blonds du centre-ville venaient dans nos quartiers. Les mamans, elles font pas de politique symbolique, elles font la politique pour leurs enfants, leurs époux, leurs frères ou leurs propres pères ou leurs sœurs. Ce sont celles qui généralement concentrent les plus grandes difficultés dans les quartiers. Ce sont celles parfois qui sont le plus battues. Certains diraient de Ouagadougou au fin fond du Pérou que sont celles qu'on aime, mais on a besoin d'elles et elles seront un instrument essentiel dans cette lutte que nous sommes en train de construire. Elles sont oubliées de toutes nos politiques publiques, ce ne sont pas des acteurs de politique publique, mais elles sont des relais essentiels de cette réactivation, de ce réveil citoyen que nous sommes en train de faire.
Fatia Aït Alla, vous êtes membre du collectif, membre fondatrice hein, du collectif Les Mères du Petit Bar, donc à Montpellier. Ce discours, il reconnaît que vous faites de la politique, enfin, c'est ce que dit le président. Est-ce que c'est comme ça que vous le diriez?
Non, on ne fait pas de la politique. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que nous on pourrait dire, parce que c'est pas notre volonté première. Notre volonté première, c'est tout simplement la réussite de nos enfants. C'est de pouvoir s'impliquer pour agir face à des problématiques réelles qui se trouvent dans les quartiers populaires, dans les écoles, pour l'éducation et pour l'avenir de tous les enfants. Donc voilà comment on se définit simplement comme des citoyens qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui agissent pour les enfants, mais pour tous les enfants de France, de la République, parce que ce qu'on soulève et ce qu'on a pu mettre en lumière ici, c'est malheureusement présent dans d'autres territoires et partout en France.
Être parent d'élève, c'est effectivement, normalement, pas seulement agir pour son enfant, mais pour les enfants, puisque aujourd'hui, nous avons un sociologue qui a écrit sur l'invisibilité des parents, et particulièrement des parents des milieux les plus populaires, des parents en situation de précarité. Alors, je ne pense pas que ce soit les seuls parents invisibles à l'école. Mais vous, de là où vous êtes, est-ce que vous aviez ce souci de rendre plus visibles les souhaits des parents et ce qu'ils avaient à dire par rapport à la scolarité des enfants?
Alors, il faut savoir qu'on a fait du chemin, du beau chemin, mais ça n'a pas été facile. Il y a une réalité, c'est que les parents des quartiers populaires, il y a un regard porté qui est complètement différent si on est parent dans d'autres écoles ou ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est qu'on constate que il y a un manque de légitimité qu'on ne donne pas aux parents des quartiers populaires. Donc, il a fallu démontrer. Il a fallu se mobiliser pour pouvoir enfin reconnaître que les parents et même les parents des quartiers populaires sont bien légitimes de pouvoir avoir leur place dans l'école, de s'exprimer et aussi de pouvoir apporter leur regard, expert de ce qu'ils vivent, expert de ce qu'ils sont. Et d'être aux côtés de l'éducation nationale, des professionnels, des institutions pour le meilleur pour les enfants, donc pour la scolarité.
Fatia Aït Alla, ce manque de légitimité, de quelle manière en fait le perceviez-vous?
Avec symboliquement une barrière fermée, une porte fermée. Clairement, on dit que l'éducation nationale ouvre les portes aux parents. Concrètement, c'est différent, c'est bien plus difficile, et c'est aussi difficile que selon les territoires, selon les endroits, selon les écoles, selon les directeurs d'école, on a des choses assez différentes. Donc, on a eu la chance, nous, de pouvoir rencontrer d'autres collectifs, d'autres parents partout en France, comme à Béziers, comme à Marseille, comme à Toulouse, comme à Stain. Et on se rend compte que la place, donc la légitimité des parents est différente, et l'accès et l'ouverture donc des parents est différent. Nous, ce que l'on dit clairement, c'est que on se rend compte qu'il y a bien des difficultés. On est conscient depuis un certain temps que, on, quand même, de l'école, les directeurs, les équipes pédagogiques sont pour certains donc dans la volonté de co-construire. Mais comment co-construire si les directeurs d'école, par exemple, n'ont pas de décharge complète, par exemple, pour pouvoir accueillir les parents et de construire des projets avec les parents sur des thématiques qui les concernent, sur des priorités, sur des axes qui à l'écoute des besoins des parents. Comment lorsqu'il n'y a pas d'espace pour les parents en toute autonomie pour s'organiser et parler des sujets qui les concernent. Donc c'est tout là un peu la difficulté, parce que l'école est ouverte aux parents, mais sous quelles conditions?
Pierre Perrier, finalement, est-ce que cette mère, Fatia Aitala, il y a un petit peu des choses que vous formulez dans votre livre, c'est-à-dire, ce sont des phrases, mais finalement, les conditions de l'accueil des parents, de l'écoute des parents, ne sont pas toujours réunies.
Voilà, je partage les constats qui ont été dressés, c'est-à-dire que d'abord il faut regarder effectivement contexte par contexte. Hein, ces questions se jouent à un niveau micro-local aujourd'hui, hein, selon les acteurs sur le territoire, selon les équipements, selon les équipes qui sont présentes. Mais on peut quand même constater que les conditions que l'institution fixe sans toujours le dire. Hein, en termes d'attente vis-à-vis du parent d'élève, ou en termes de modalités pour s'investir dans l'école, dans certaines activités, font que, de fait, ça va tenir à distance une partie des parents, ceux-là même pour lesquels ce serait sans doute plus nécessaire qu'ils soient au contact de l'école, des enseignants. Participer à des réunions d'information qui portent sur des questions de pédagogie et d'apprentissage, sont des moments qui peuvent être inaccessibles quasiment pour certains parents ou mal vécus, et j'ai des exemples dans l'ouvrage pour dire que finalement ils se sentent disqualifiés parce que ayant été peu scolarisés ou avec une scolarité d'échec, ces moments leur rappellent leurs propres difficultés ou souffrances scolaires. C'est le fait de devoir, si on considère que c'est par la communication verbale que l'échange se fait ou écrite, les parents sont en difficulté avec l'écrit. C'est si vrai que ce sont les enfants qui lisent les textes pour les parents et parfois signent à leur place. Quant à s'exprimer oralement, il y a un sentiment assez fondé d'asymétrie, où ils ont le sentiment de beaucoup s'exposer, redoutent d'être maladroits, de pas trouver les bons termes, d'apparaître finalement peu légitime, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ce sont toutes ces petites situations qui semblent assez évidentes, routinisées dans le fonctionnement de l'institution, qui fait qu'en réalité, on ne crée pas les conditions pour ouvrir aux parents dans leur diversité. Et je crois qu'effectivement, un des enjeux, c'est de penser la diversité des modalités du lien qu'on peut construire avec les parents, qui prennent en compte la diversité même des parents, qui est dans la sociologie des familles contemporaines, avec des effets de contexte plus ou moins marqués.
Et des écoles plus ou moins mixtes socialement. Jeanne Bernard, je dis mixte parce que votre école, celle où vous êtes parent d'élève et celle où vous essayez, hein, et vous allez nous expliquer comment de faciliter la communication entre parents et équipe enseignante, l'est mixte socialement. Alors, comment on fait pour créer des solutions nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'école? Comment on réfléchit à tout cela collectivement avec les parents dans le but, puisque c'est ce que vous m'avez dit, que tout le monde puisse participer s'il le souhaite?
Alors déjà, je pense que ça ne se fait pas tout seul. Je suis arrivée il y a 4-5 ans dans cette école, il y avait déjà un énorme travail qui était fait en termes de, justement, de mise en place de coéducation par l'ancienne directrice de l'école. Et quand je suis arrivée, j'ai eu du mal à trouver ma place en tant que parent, en fait, en tant que parent élu. Parce qu'il y a la mixité sociale, mais il y a aussi la diversité de comment je trouve ma place, si j'ai envie de prendre plus ou moins... est-ce que j'ai envie juste de m'informer, donner mon avis, ou est-ce que j'ai envie de pouvoir... je sais pas, donner, faire de la facilitation ou autre. Et donc, ce qu'on a mis en place dans cette école, c'est prendre en fait des temps qui existent déjà collectifs pour les transformer en des moments collaboratifs avec de la méthode. Donc, en l'occurrence, ce sont les conseils d'école qui réunissent déjà beaucoup de personnes de l'école, équipe enseignante, équipe pédagogique et parents. Là, on les a ouverts en fait à tous ceux qui le souhaitent, donc aussi en maternelle avec les ETSEM, aussi aux périscolaires, à l'association locale au quartier Vitalité. Et on a mis de la méthode, c'est-à-dire que le conseil d'école, au lieu que ce soit une grande table avec tout le monde qui écoute le directeur, on se tait, on pose 2-3 questions si vraiment on est à l'aise pour poser une question et on sait comment la formuler. En fait, on fait des mini-ateliers qu'on cible sur des sujets très précis qu'on a préparés en amont avec des volontaires. Donc tout ça, en fait, c'est sur la base du volontariat. On pourra peut-être en parler après. Mais voilà, nous, ce qu'on a mis en place, c'est prendre des moments existants d'espace-temps, pour mettre de la méthode dedans et valoriser des lieux qui existent, comme votre invité le disait tout à l'heure, prendre des lieux en fait physiques qui existent pour que les gens se rencontrent, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise dans l'écrit, on n'est pas forcément à l'aise dans l'oral, on n'est pas forcément à l'aise dans un grand groupe. Donc voilà, c'est mixer en fait tous ces dispositifs-là dans l'école.
Sylvaine Bérel, vous me le disiez en antenne, ce qui complique aujourd'hui aussi la vie des parents d'élèves, c'est que comme pour tout, et comme pour les enseignants dans l'éducation nationale, aujourd'hui, se parler, dire quelque chose à la directrice de son école, à la sortie de l'école, en fait, ça suffit pas, faut s'envoyer des mails, par exemple.
Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est effectivement une réponse qui m'a été faite, et pas par la directrice de l'école, mais par la responsable éducative ville, qu'en fait, maintenant, c'est mieux, de sa direction lui a demandé qu'il fallait qu'elle ait une trace écrite d'une demande pour pouvoir faire... elle, une réponse publique. Donc effectivement, ça facilite pas. Mais il y a plein de choses qui facilitent pas l'entrée des parents dans l'école, en fait, sans que, je pense, l'institution s'en rende compte. C'est que en maternelle, on accompagne ses enfants jusque dans la classe. Et puis arrive l'élémentaire, en fait, au CP, c'est plus possible. On laisse les enfants à la porte de l'école. Donc déjà, les parents ne sont plus dans l'école. Ils savent même, si ça se trouve, ils savent pas jusqu'au premier rendez-vous avec l'instit où se situe la classe de leur enfant dans le bâtiment. Alors, je sais que moi, dans l'école où un de mes fils est, l'école élémentaire, il laisse encore en CP les parents accompagnés dans la classe. Mais bon, en CE1, de toute façon, c'est fini. Puis après, vous passez au collège. Et en fait, au collège, non seulement on rentre plus dans le collège, parce que les enfants y vont tout seuls, et du coup, on ne rencontre les enseignants que, éventuellement, pour la réunion d'information. Mais après, ça se passe au conseil d'administration, ou en conseil de classe, et les conseils de classe, des fois, sont organisés à 15 heures dans la journée. Donc, enfin, quel parent peut aller, enfin, prendre son rôle, en fait, de parent d'élève élu, quand les conseils d'école, qui sont une fois par trimestre, sont organisés en milieu de journée?
À travers votre collectif qui se bat pour préserver et même réinstaurer une certaine forme de mixité sociale, donc on parle du 18e arrondissement, du côté populaire du 18e arrondissement de Paris, vous essayez aussi d'impliquer un maximum de parents. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés avec des parents de milieux populaires? Est-ce que vous êtes confronté à cette invisibilité dont parle Pierre Perrier?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, l'invisibilité, c'est comment les gens qui n'ont pas forcément les codes de l'école ne se posent pas de questions. Donc, ils vont à l'école où on leur demande de mettre leurs enfants. Et en fait, cette mixité, enfin, de fait, ne se pose pas réellement pour eux. Ils sont dans l'école où ils doivent être. Après, effectivement, comme par exemple au petit bar, certains se posent la question de se dire, mais comment ça se fait que, alors que mon quartier est plutôt mixte, mon école, elle ne représente qu'une seule partie des enfants du quartier. Là, ça pose un problème. Mais après, c'est eux, ils le subissent, quelque part. Je pense que c'est compliqué d'établir un dialogue entre les, quelque part, les deux communautés qui ne veulent plus se côtoyer un moment dans l'école. Et bizarrement, c'est effectivement plutôt les parents visibles qui prennent en charge la question et les parents invisibles qui ont du mal à se l'approprier. Mais en fait, moi, parents invisibles, c'est quand même un terme qui me gêne parce que c'est pas parce qu'ils sont invisibles au niveau de l'institution, de l'école, qu'ils sont invisibles pour le parcours d'élèves de leurs enfants. C'est-à-dire que, comme vous et moi, je pense que c'est aussi des parents qui ont des désirs pour leurs enfants, des projets pour leurs enfants. Donc, ils sont présents. Mais après, ils ne sont pas forcément là pour l'institution telle qu'on leur demande d'intervenir.
Pierre Perrier, sur ce point.
C'est que précisément, une attente d'implication dans les formes, selon les codes, les modalités de l'institution. Et c'est à travers ce prisme que l'institution reconnaît ou pas les parents au sens de, les rendre visibles dans leur présence et leur accorder de la valeur. Mais en réalité, je le souligne et je le développe dans l'ouvrage, les parents invisibles s'impliquent à la mesure de leurs moyens dans des conditions difficiles qui sont les leurs souvent pour la scolarité de leur enfant. Je prends l'exemple des devoirs, hein, qui est la contrainte qui revient de façon récurrente et qui est souvent un objet de tension et de disqualification très vite des parents qui décrochent, on va dire, scolairement par rapport aux attentes de méthode ou de contenu des devoirs. Mais ils font preuve de bonne volonté, mais une bonne volonté qui ne suffit pas pour les devoirs. Effectivement, il y a derrière les parents invisibles, ça ne se confond pas. Il y a des parents impliqués. Et c'est cette implication des parents qui demanderaient à être déjà reconnus par l'institution et ses acteurs, hein, non pas un procès en démission des parents, en désintérêt scolaire. C'est tout le contraire. De la même manière que le rapport initial des parents à l'école républicaine, c'est un rapport de confiance, un rapport de loyauté vis-à-vis de l'école, loin de ses parents, l'idée de l'évitement, l'idée, voyez, d'une autre école, dans un premier temps, mais hélas, les choses se détériorent parfois très vite. Ils sont dans ce rapport de confiance, qui est un peu aussi un rapport de délégation ou de remise de soi, qui peut parfois être mal compris.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Vraiment papa, maman, trouve ce pas charmant, bien qu'il ne soit pas tellement beau. Ouh, maman dans le mambo, se prend pour Salambo. Et quand papa s'y met, c'est la fête, je vous le promets, un étonnant numéro. Il s'élance et il bondit, il s'avance et il s'enfuit. Oh là là, il se relance, aïe, aïe, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée. C'est vrai qu'un mambo, c'est pas un tango. Mais quand ils font leur pas, maman et puis papa ont vraiment l'air de robots. Aïe, au bout de leur mambo, ils s'entendent lambeau. Ils ont du bon temps, car ils se croient 20 ans et tout le monde est content.
Être et savoir sur France Culture, cette chanson parle de parents qui dansent. Nous parlons des parents, d'élèves avec nos invités. Alors on parlait de la reconnaissance dont bénéficient ou ne bénéficient pas certains parents. Fatia Aïtala, je voulais vous demander, vous, comment vous aviez fait au sein de votre collectif pour entraîner encore davantage de parents? Et puis, question subsidiaire mais importante, est-ce qu'il y a aussi des pères au sein du membre du collectif, des mères du Petit Bar à Montpellier?
Oui, alors en effet, non. Ce qu'il y a, c'est que le nom du collectif, c'est le collectif de parents d'élèves Petit Bar Pergola. Donc, ce n'est pas un collectif de mères. Et il y a bien des parents, les pères et les mères présents dans le collectif et qui se soucient bien évidemment de toutes les questions qu'on soulève. Alors, on n'a pas vraiment de difficulté à mobiliser les parents, tout simplement parce que, comme on a pu le dire, tout parent se soucie de la réussite de son enfant et s'implique quand il a la possibilité de s'impliquer. Donc, il faut savoir que nous, on met en lumière donc les problématiques pour lesquelles on est conscient, mais pas seulement. Donc, il y a les problèmes, mais on réfléchit aussi les solutions. Et pour réfléchir aux solutions et pour pouvoir justement développer toutes les compétences et savoir qu'il faut pour mener à bien cette mobilisation, on s'entoure donc d'experts, on s'entoure de professionnels, de chercheurs, notamment donc un chercheur qui nous suit depuis le début du mouvement, Choukri Ben Ayed, qui a une expertise qui nous suit donc depuis le départ. Il y a également donc Najat Bentiri, qui est donc experte PACT 34, qui est sur le territoire, qui a 15 ans d'expertise sur le territoire du Petit Bas, et aussi tout professionnel qui peut justement nous apporter des connaissances et permettre de réfléchir à des actions, et notamment donc pour la légitimité, la reconnaissance, l'expertise des parents, on a fait des propositions concrètes. Hein, donc, c'est dans les préconisations issues des États généraux d'éducation dans les quartiers populaires qu'on a organisé depuis 2017. Donc, il y a eu la première édition en 2007 à Montpellier, et ensuite la deuxième en 2018 à Créteil. Et là, donc, les troisièmes états généraux d'éducation des quartiers populaires qui s'organisent pour les 29 et 30 novembre à Stain, en Seine-Saint-Denis.
C'est annoncé. En étant parent d'élève, on apprend beaucoup de choses, on l'a entendu, en étant parent d'élève. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, Jeanne Bernard, aussi sur la manière qu'on peut avoir de discuter collectivement et de régler des problèmes? Je parle de vous et des autres parents d'élèves de votre école à Lyon.
En tant que parent, déjà, j'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de l'école. On n'imagine pas, en fait, que dans un conseil d'école, on va aussi parler de pourquoi il n'y a pas de savon dans les toilettes en pleine période de gastro. Des choses comme aussi concrète que ça, et bien sûr on apprend sur la pédagogie, on apprend des enseignants à parler avec eux. Et après, d'un point de vue méthodologique, j'ai envie de dire, l'école, c'est un endroit qui est avec des participants très divers, et donc finalement ce qu'on met en place dans une entreprise où c'est un petit peu toujours les mêmes profils, ou dans l'école, c'est pas exactement la même chose. Et ce que nous on met en place dans ces moments collaboratifs, ça permet aux gens déjà de s'écouter avec bienveillance, avec accueil de ce que l'autre a à dire. Ça permet à chacun de s'exprimer, et aussi à ceux qui ont pas l'habitude de s'exprimer, donc c'est pas forcément devant tout le monde, c'est peut-être avec des manières différentes. Et là, ça permet d'apprendre aussi, et ça permet d'apprendre aussi le point de vue de l'autre, de grandir sur des sujets comme les rythmes scolaires, par exemple. De savoir, est-ce que, il y a deux ans, on a eu une réforme des rythmes scolaires. Quand elle a été mise en place à Lyon, notre école, en tout cas, était contre cette réforme et contre la proposition de la ville de Lyon de ces nouveaux rythmes. On avait voté en conseil d'école. Et au lieu de passer des heures à se dire on est contre, dans le conseil d'école, on s'est posé la question, quelles sont les problématiques que posent ces nouveaux rythmes scolaires qu'on nous impose? Et là, en fait, on apprend les uns des autres, parce qu'on prend le temps de discuter, on apprend le fonctionnement de l'école, on apprend le point de vue d'un enseignant, d'une ATSEM, d'une personne du périscolaire, on apprend les points de vue de tous les parents qui n'ont pas les mêmes, une mère célibataire, etc.
Vous ne nous présentez pas un point de vue un petit peu enchanté d'un monde où tout le monde s'écouterait, serait extrêmement patient, parce que dans le livre de Pierre Perrier, mais on peut peut-être y revenir, on voit que le jugement de valeur qu'on peut porter les uns sur les autres est extrêmement polluant en ce qui concerne les relations, même si ces relations sont définies comme importantes pour faire progresser l'école, etc. Pierre Perrier.
Oui, il y a un certain nombre de préjugés alimentés par des stéréotypes sociaux qui sont à l'arrière-plan, et puis qui sont activés dans les moments où c'est plus difficile, où les enseignants invitent des parents pour un rendez-vous, qui ne viennent pas, voire les convoquent et ne viennent toujours pas. Et là, on voit le jugement se former à l'encontre de ces parents, et les parents de leur côté aussi. aussi avec le sentiment d'être incompris dans ce qu'ils font, voire jugés sur ce qu'ils sont, peuvent avoir un sentiment d'être de mépris, le sentiment très injuste hein, de ne pas être considéré à égale dignité des autres. Donc peu de choses peuvent suffire à crisper la relation et à activer ces préjugés réciproques qui peuvent assez facilement tomber dans l'impasse. Hein. Donc les parents se tiennent à distance, les enseignants ne comprennent pas de leur côté cette absence. Et cette spirale va détériorer parfois durablement les relations. Et c'est là qu'il y a vraiment un enjeu de penser les modalités et d'accompagner aussi les modalités du lien et d'accompagner les acteurs hein, dans la prise en compte de ses parents et de la manière de composer et d'arranger, si possible. Avec eux. Mais effectivement, il y a des effets de jugement qui peuvent être assez forts, qui sont aussi une conséquence d'une forme d'impuissance des enseignants pour agir et qui, d'une certaine manière, se dédouanent en surresponsabilisant les parents. Et c'est pas faire un procès aux enseignants que de dire ça, c'est bien comprendre que eux-mêmes sont traversés par le doute, sont confrontés à des impasses et que donc ils essayent de se soulager moralement de ces difficultés. Et ça renvoie un petit peu à ce que vous avez présenté de façon beaucoup plus dramatique en début d'émission, c'est-à-dire une souffrance muette qui se joue aussi à travers les parents. Oui.
Et puis sur le jugement, et de manière un peu plus légère, on peut revenir sur ce jugement souvent formulé à l'endroit des mères, et pas du tout seulement des mères de milieu populaire. On est soit trop couvrante, soit pas assez présente, mais c'est peut-être, ça fait peut-être partie encore, hélas, du destin maternel. Jeanne Bernard, vous vouliez encore ajouter quelque chose, et puis on a envie de savoir comment on fait justement pour s'attaquer à ces jugements et faire un peu tomber... Ces barrières intellectuelles, mentales, qui empêchent de parler de ce qu'on prend.
Pour moi, justement, c'est des modalités. On parle de mettre en place des modalités, mettre en place des conditions pour que les gens, je disais tout à l'heure, s'écoutent. Mais s'écouter, c'est pas être d'accord. C'est juste prendre le temps de l'écoute et de séparer avec méthode le temps d'instruction, par exemple, d'un problème, le temps d'idéation et le temps de décision. Et même de création d'une solution. Donc c'est, pour moi, apporter de la méthode à toutes les personnes qui le souhaitent dans les équipes pédagogiques auprès des parents. Nous, on a commencé à le faire il y a 2 ans en étant bénévole avec une collègue qui elle-même n'est pas parent, donc elle vient complètement de l'extérieur de l'école et elle a cette volonté de diffuser ces méthodes-là comme moi. On s'est aperçu que ça peut pas tenir sur la bonne volonté de 2 personnes et donc aujourd'hui on diffuse ces méthodes-là en proposant des formations à des directeurs, enseignants et parents qui le souhaitent, donc volontaires et bénévoles de Lyon, de se former à ces dispositifs-là, de conseil d'école, donc avec un facilitateur qui va, auprès du directeur, définir des objectifs très très précis du conseil d'école, qui peuvent être, par exemple, nous on a adressé donc les questions de rythme scolaire, quelles solutions à mettre en place face aux problématiques de pauses méridiennes qui sont très rallongées, par exemple. On a traité de par exemple, de revoir complètement le règlement intérieur à 40 personnes pendant une soirée de l'école pour que tout le monde soit aligné avec ce règlement intérieur. On s'est aperçu d'ailleurs que beaucoup de gens le découvraient à ce moment-là. Donc, il y a tout ce moment de préparation du conseil d'école avec le directeur et des volontaires, enseignants, ATSEM ou périscolaires et puis d'autres. Et ensuite, le moment de facilitation où là, il faut imaginer un grand hall, le hall nous de la maternelle, qui est avec tout le monde, tous ceux qui doivent venir et tous ceux qui peuvent venir aussi. Et on résout, on avance sur les problèmes. Et oui, il y a du jugement, mais c'est le rôle du facilitateur, justement, et de la méthode de permettre que ce jugement prenne moins de place.
Alors, je précise, on parle de formation, on parle de méthode, tout ça est gratuit, c'est de l'échange d'idées, en tout cas dans le cadre scolaire.
Oui, tout à fait.
Et puis c'est une... D'ailleurs, est-ce que c'est une méthode ?
Alors, c'est plusieurs méthodes et c'est gratuit, c'est de l'échange. C'est pas gratuit, c'est de l'échange parce que nous, on apprend énormément avec eux. En fait, il y en a déjà qui le font et c'est des associations, des gens comme nous. Et c'est gratuit, c'est bénévole pour l'instant, mais ça devrait pas l'être.
Moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est un effet d'entraînement. C'est ce qu'on a vu aussi avec le collectif du Petit Bar, Fatia Aïtala, un collectif qui, année après année, s'est étoffé. Et parce que arriver à se faire entendre, c'est entraîner aussi d'autres parents dans son sillage.
Oui, on apprend année après année, donc action après action. Les parents donc du coup aussi nous suivent, mais ce qu'on fait également c'est qu'on transmet aussi à ces parents-là, donc s'ils mobilisent et que ils sont bien là, c'est parce qu'on fait de la transmission de savoir, de connaissances, de création d'espace dans l'école avec intervention d'experts pour informer sur les codes, sur le fonctionnement de l'école, le lien avec les enseignants, avec les équipes d'éducation. On décomplexe en fait tous les sujets et ça permet donc d'avoir une certaine aisance pour les parents au final de pouvoir s'impliquer et de nous rejoindre dans la mobilisation.
Alors, il reste tout de même un petit point, et c'est un point noir, celui de la participation électorale. Sylvaine Bérel, je me tourne vers vous, qu'on ait décidé de voter pour la FCPE, une liste indépendante, la PEP, pour ne citer que les principales options. Il y a un problème de participation, enfin je ne sais pas si vous appelez ça un problème. En tout cas, au premier degré, cette participation reste relativement importante, 47,36%. L'année dernière, on tourne à peu près autour de ce chiffre depuis une dizaine d'années. Dans le secondaire, on est à environ 22% de participation des parents d'élèves. Que se passe-t-il ?
Ben, ce que j'expliquais tout à l'heure, les parents ne viennent plus au collège et le collège ne va plus chercher les parents. En fait, c'est deux mondes un peu séparés qui se côtoient sans partager. Vraiment, quand on devient parent de collégien, on confie nos enfants à l'institution. Il y a très peu de moments où les parents sont admis au sein du collège et où ils peuvent réellement parler, parce qu'en fait, même quand on va au CA, l'ordre du jour est tellement énorme qu'il est déjà codifié avant que les parents aient leur mot à dire, et que du coup, même sur les questions diverses, ça arrive en fin de conseil d'administration, autant vous dire qu'il n'y a plus le temps, quoi. Donc en fait, on gère un établissement, mais les parents ne sont pas vraiment co-acteurs de cette gestion. Et je pense que du coup, les élèves pensent que leurs parents n'ont rien à faire là. Donc il n'y a pas non plus de transmission dans l'autre sens. C'est-à-dire que même s'il y a des mots qui sont mis dans les carnets de correspondance ou même les enveloppes de vote par correspondance, en fait, je ne suis pas sûre qu'elles arrivent jusqu'aux parents. Donc les parents, de fait, sont hyper éloignés de toute façon du collège. Et que ceux qui sont encore là et qui sont au conseil d'école et au conseil d'administration, ils étaient déjà là à la maternelle, ils étaient déjà là à l'élémentaire. Donc cela continue quand ils ne sont pas fatigués en cours de route, parce qu'il y a peu de personnes qui se proposent. Mais en tout cas, c'est clair qu'au collège, ceux qui n'ont pas été là un petit peu à l'élémentaire, ils sont définitivement éloignés de l'institution.
On ne peut pas devenir parent d'élève sur le tard, en tout cas, c'est plus tard. Est-ce que c'est une question ?
On peut, mais c'est compliqué.
Est-ce que c'est une question de démocratie locale ?
Moi, je pense que c'est vraiment, ouais, tout à fait. Parce que c'est, je pense que c'est là qu'on apprend à nos enfants qu'ils sont de réels citoyens. Et s'ils voient que leurs parents sont éloignés de leur lieu de vie, quelles images ils vont avoir, eux, sur leur investissement dans leur société future. Ah ouais, moi, je pense que c'est hyper important que les enfants voient que leurs parents participent à leur vie, même en étant au sein de l'école, et surtout en étant au sein de l'école. Qu'ils existent pour l'école, pour ce qui fait... Les enfants, ils passent la majeure partie de leur journée, en fait, dans les écoles. Si leurs parents sont absents de ce moment-là, quel investissement ils peuvent s'imaginer dans leur société future ? Moi, je pense que c'est une vraie question de démocratie.
Pierre Perrier, à vos yeux, et après cette recherche sur les parents d'élèves, est-ce une question qu'on peut rattacher à une question de démocratie ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le propos du livre, hein. Enfin, tout de l'enquête, c'est de donner une voix à ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, c'est reconnaître leurs paroles. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que confrontés aux épreuves de la précarité, il y a un certain nombre de parents qu'il sera difficile de mobiliser à hauteur de ce que l'institution attend et permet d'ailleurs. Et donc, il me semble que sur les des quartiers prioritaires, il y a un enjeu de maillage parental, il y a un enjeu de faire du lien entre les parents, hein, et pas simplement entre un parent et l'école ou l'enseignant ou les enseignants. Donc un maillage parental, donc une forme d'étayage quoi pour l'ensemble des parents, et donc d'avoir des relais qui portent leur voix et qui leur permettent d'être représentés, y compris lorsqu'ils sont absents. Je crois qu'on n'arrivera pas à avoir tous les parents présents dans l'école, ni dans les associations. Donc la question c'est, est-ce qu'ils se sentent représentés ou pas? Et il y a sur certains quartiers, il y a une expérience là dont on a parlé, effectivement des collectifs qui fonctionnent, qui vont créer ce maillage, cette mise en réseau des parents, et par ces voies-là, par capillarité, d'autres parents vont être associés, et le sentiment d'avoir effectivement une légitimité, même en étant à distance de l'école. Donc je crois que ça c'est tout à fait fondamental à l'échelle des territoires, de même qu'il est fondamental de, une fois de plus, penser la diversité des modalités par lesquelles on peut construire du lien et donner du sens dans la relation entre parents et école. Et il est certain que la communication institutionnalisée, que ce soit les associations de parents d'élèves, que ce soit les réunions, elle est utile, bien sûr, et nécessaire même, mais elle est largement insuffisante, et surtout dans certains contextes. Donc c'est ça qu'il faut réussir à penser et à dynamiser.
Merci beaucoup Pierre Perrier. Je rappelle le titre de votre livre, Des parents invisibles, l'école face à la précarité familiale. C'est publié au PUF. Merci aux parents d'élèves, aux trois mères d'élèves qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ont donné aussi un aperçu des possibilités collectives de mieux inscrire davantage de parents. On rappelle que les élections de parents d'élèves, c'est les 11 et 12 octobre, soit vendredi et samedi prochain. Tout de suite, la dernière rubrique de l'émission. Et cette dernière rubrique, c'est la leçon de choses de Sophie Bobert avec le grand reporter et écrivain Piotr Smolar.
En fait, j'ai vécu une enfance extrêmement heureuse. C'était toujours joyeux, mais ça pouvait être tendu, mais pas tendu pour des raisons familiales, c'était surtout tendu parce que j'ai eu conscience de la gravité de la vie très très jeune, parce que ma famille était branchée sur les informations en provenance de Pologne, notamment après l'instauration de la loi martiale en 81, ils étaient branchés en permanence sur la radio, sur les ondes. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, donc c'était vraiment les vieux postes radio et qui diffusaient en permanence les informations sur ce qui se passait, sur les arrestations d'amis, de proches.
Et vous, ça vous intéressait? Vous étiez ce genre de gosse qui se jette sur la presse ou qui écoute les infos avec ses parents?
Sur la presse, pas 7-8 ans, mais je pense que j'ai vraiment gardé ça de mon enfance, de ces souvenirs-là. C'est la notion que l'information, c'est grave. C'était après l'instauration de la loi martiale par le général Jaruzelski en décembre 81. Il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est organisée en France avec des syndicats, avec des représentants de l'opposition démocratique en exil, dont mon père, ici. Et des camions partaient. Je ne me rappelle plus vraiment de la fréquence de ces voyages, mais je me souviens très précisément que des fois à la maison, l'enfant que j'étais, parce que je devais avoir 7, 8, 9 ans, voyait des chocolats, des bonnes choses à grignoter. J'étais évidemment gourmand. Et ma mère me disait, non, c'est pour la Pologne. Oh, mais pourquoi encore pour la Pologne?
Oui, c'est ce que vous racontez dans votre nouveau livre, Mauvais Juif. Vous dites, je vous cite, c'était un pays de manque au ciel bas. Pour les fêtes de fin d'année, ma mère préparait des cartons de chocolat et d'autres produits de luxe que des camions emportaient vers cette Pologne accablée par le crépuscule communiste.
Oui, c'était vraiment un accablement. C'était la Pologne des années 80, moi je m'en souviens que vraiment qu'en noir et blanc. On y allait de façon plus ou moins régulière pour rendre visite à ma famille. Pas mon père, parce qu'il ne pouvait pas. Il n'a pu y aller que après la table ronde en 1989 avec l'opposition anticommuniste des démocratiques. Et auparavant, quand j'y allais, c'était pour voir mes grands-mères, mes grands-pères.
Et c'était une corvée d'y aller? C'était compliqué? Ça vous pesait?
Non, ça ne me pesait pas du tout. Je ne m'en souviens pas du tout comme d'une corvée. Je m'en souviens comme quelque chose d'exotique. C'est-à-dire que... j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs familiaux, émotionnels. Je me souviens de grands appartements situés aujourd'hui juste en face du palais présidentiel dans lequel vivaient ma grand-mère maternelle et mon grand-père. Je me souviens de l'odeur du tabac, de la pipe de mon grand-père. Je me souviens de leur tendresse à ma grand-mère et mon grand-père, de leurs éclats de rire. Je me souviens de la grande table en bois sombre derrière laquelle mon grand-père était assis. J'ai des souvenirs qui sont vraiment des souvenirs de couleurs, d'odeurs, de sons, qui sont liés à ces visites, et pas du tout de manque, parce que j'étais juste de passage. Je venais la plupart du temps pour une semaine, 10 jours, et voilà, il y avait rien, comment dire, de l'ordre de la corvée ou de la souffrance là-dedans.
On parlait pas de politique à la maison.
On parlait énormément de politique, mais on parlait de lutte contre le communisme en Pologne, ce qui était très différent, puisque mon père a eu un engagement constant. Il en a payé un prix élevé. Il a fait de la prison en Pologne après les mouvements étudiants en mars 68. Il a été contraint à l'exil aussi parce que son horizon était bouché en Pologne. Par conséquent, pour moi, dans mon enfance, si vous voulez, le communisme, c'était l'ennemi. C'était l'ennemi qui avait causé une forme aussi de souffrance, en quelque sorte, à ma famille. C'était pas du tout un horizon glorieux. Il n'y avait aucun déchirement. L'adversaire était clairement désigné, en quelque sorte. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et depuis, je pense que j'ai toujours nourri une espèce de méfiance envers tous les mots qui finissent par « isme ». Je n'aime pas trop quand on marche en ordre militaire. Je crois qu'une des... Parmi tout ce que j'ai reçu de mes parents, je pense que ce qui est le plus important, c'est le rapport au bien et au mal. Et vous savez, il y a cette expression en anglais qui pour moi est vraiment importante, qui dit « right or wrong, my country ». C'est que mon pays ait raison ou tort, le plus important, c'est mon pays. Je refuse complètement l'alignement. Je refuse l'idée d'une marche forcée derrière une cause. Je refuse l'idée qu'il faudrait casser sa boussole éthique et oublier où est le bien et où est le mal, parce qu'on devrait, au nom d'une foi, que ce soit une foi religieuse ou que ce soit une foi nationaliste, ou que ce soit toute autre forme d'engagement pour une communauté ou pour une identité. Je refuse cela. Je pense aussi qu'ils m'ont appris l'empathie. Ils m'ont appris, et sans l'empathie, je ne connais pas de bons journalistes. Il y a beaucoup de très belles mécaniques chez les journalistes, mais les plus grands journalistes sont ceux qui ont cette boussole qui indique toujours le nord et le sud.
Et le livre de Piotr Smolar, « Mauvais juif », vient de sortir aux éditions des Équateurs. Et nous remercions toute l'équipe d'Être et Savoir, Avril Ventura chargée de production, Jordan Fuentes qui était ce soir à la prise de son et Philippe Baudouin, notre réalisateur. La semaine prochaine, nous parlerons de la curiosité pour apprendre.